Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Plus classique, mais quand même qui est très important, c'est Jésus et les paraboles. Et pour ça, j'aimerais que nous fassions une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Tout d'abord, nous commençons par le verset 1er. Donc, Matthieu 13, verset 1er. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longtemps en parabole. Verset 10 maintenant. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les secrets ou les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. » Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien et vous ne comprendrez pas, vous regarderez bien et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous entendez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Parabole, c'est un terme qui signifie tout simplement en hébreu un exemple, machal, on dit en hébreu. C'est le nom d'un des livres de ce que l'on appelle généralement l'Ancien Testament, le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, en hébreu, se dit « Meshalim », ce qui peut se traduire par « exemple » et aussi par « parabole ». Les paraboles qui sont évoquées dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu sont généralement appelées « paraboles du royaume ». Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi ce terme. Je voudrais d'abord dire quelques mots de la parabole dans la culture hébraïque de l'époque de Jésus. Il faut savoir que c'est un genre littéraire qui était très répandu de ce temps-là. On le trouve déjà dans l'Écriture, si vous préférez l'Ancien Testament. Nous avons quelques exemples de paraboles qui nous sont données. Par exemple, la plus célèbre est la parabole de la brebis du pauvre, qui va être évoquée par David, par Nathan à David, le prophète Nathan, lorsque David a péché. Et vous savez l'histoire que va raconter Nathan à David. Il lui dit, il y avait un homme riche qui avait de très nombreuses brebis, il avait un voisin qui avait une toute petite brebis, n'est-ce pas ? Il était très pauvre, cet homme-là, au contraire. Et son seul bien, c'était cette petite brebis qu'il aimait comme si c'était un être humain. Et lorsque est arrivé un riche chez un voyageur chez le riche, au lieu de prendre une des nombreuses brebis de son troupeau, il est allé prendre la brebis du pauvre et il l'a égorgée pour l'offrir à son visiteur. Et David, indigné, dit, mais cet homme mérite la mort. Et le prophète lui dit, mais tuez cet homme-là. Ça, c'est un exemple le plus typique d'une parabole de l'Ancien Testament. Nous avons aussi une autre parabole qui nous est racontée par un fils de Gédéon. Vous savez comment Avimelech, un fils de Gédéon, avait tué tous ses frères pour se faire proclamer roi. Le seul qui avait échappé était un homme qui s'appelait Yotam. Et au moment de l'intronisation de son frère Avimelech, il a raconté cette parabole des arbres aussi. On est toujours dans les arbres et on n'en sort pas. Il y a des arbres qui ont voulu établir un roi sur eux. Et finalement, aucun arbre n'a voulu régner sur eux parce qu'ils étaient trop occupés à produire du bon fruit. Le seul qui est accepté de devenir roi, c'est un arbre qu'on appelle en hébreu la tab. Il n'y a pas de traduction en français. On traduit cette expression par buisson d'épines. C'est pas un buisson d'épines, c'est un arbre, c'est un grand arbre, mais un arbre qui est bardé d'épines, de grandes épines comme ça. C'est pas, je sais pas comment il s'appelle en français. Et parce que justement cet arbre était un inutile, était un arbre nuisible, on peut dire, il accepte de régner comme Avimelech accepte de régner sur ses frères. Et le résultat, bien, c'est qu'au lieu d'être une bénédiction, l'élection de ce roi est une malédiction, et c'est ce que Yotam veut prouver à ce peuple de Sichem qui a accepté de faire régner sur lui un homme sans foi ni loi, un meurtrier de ses frères, etc. Bon, ça c'est donc la parabole. À l'époque de Jésus, c'était une coutume très courante des rabbins d'enseigner par des paraboles, d'illustrer leurs propos par des paraboles. Et nous sommes parvenus, au travers des écrits du peuple juif de cette période-là, des milliers de paraboles des sages. Voyez-vous, Jésus n'était pas le seul à parler en paraboles. Et les paraboles des sages, elles ont souvent rapport avec la rétribution future. Et ça, nous allons voir que c'est un thème essentiel de la parabole. Il y avait toutefois une grande différence entre les paraboles des sages et Jésus. Les sages illustraient leur enseignement par des paraboles, Jésus n'enseignait qu'en paraboles. Jésus est de tous les sages d'Israël celui qui a poussé l'art de la parabole à sa perfection. Et l'on peut dire que Jésus était un maître parabolier. La parabole était donc la part essentielle de son enseignement. La parabole était considérée comme une des manifestations de ce que l'on appelait la littérature de la sagesse. Nous avons vu que parabole est quelque chose qui concerne aussi le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes est un livre qui fait partie de ce que l'on appelle la littérature de la sagesse, qui est la troisième partie de la Bible hébraïque. La Bible hébraïque est composée de trois parties, la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, le Pentateuch, les prophètes, qui comprennent les premiers prophètes, ce que nous appelons nous les livres historiques, et ce que nous appelons les prophètes, c'est-à-dire Ésaïe, Jérémie et les autres, et enfin ce qu'on appelle les écrits, c'est-à-dire justement les livres de la sagesse, les psaumes, les proverbes, Job, etc., tous les autres livres. Il est à noter aussi que le livre du prophète Daniel, dans la tradition juive, est considéré non pas comme faisant partie des prophètes, mais comme faisant partie de la littérature de la sagesse. Pourquoi ? Parce que, nous l'avons vu, la littérature de la sagesse a à voir avec les choses dernières. La parabole est un enseignement qui est voilé, qui n'est pas un enseignement direct. On enseigne par des exemples, par des comparaisons. Et pour pouvoir comprendre la parabole, il faut la décrypter. Autrement dit, il faut de la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle la parabole est un des marques essentielles de cette littérature de la sagesse. Parce que les choses dernières, puisque la parabole s'applique aux choses dernières, ça veut dire l'établissement du royaume de Dieu, eh bien ces choses sont tellement différentes de ce que existe aujourd'hui dans notre monde, qu'on ne peut pas en parler d'une manière directe. Les choses dernières sont entourées de mystères, et on ne peut pas en parler d'une manière directe parce que l'homme ne peut pas comprendre. Paul nous dira ça aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens, quand il nous parle de cette expérience qu'il avait faite, où il avait été emmené au troisième ciel. Et là, il a dit, j'ai entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Parce que c'était des choses tellement glorieuses que les mots humains ne peuvent pas évoquer ces choses. Et on est obligé d'en parler en paraboles, par des comparaisons, des choses qui peuvent être comprises par l'homme et qui sont une approximation de la réalité. Et par conséquent, il faut une sagesse pour pouvoir comprendre ce que la parabole veut nous enseigner au sujet justement des choses dernières. Je voudrais faire une petite parenthèse au sujet justement de la vision de Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Je suis un peu perplexe aujourd'hui parce que de plus en plus de gens prétendent être allés visiter l'enfer, le paradis et des choses semblables. Et moi, ça me lève toujours perplexe. D'abord parce que souvent, les descriptions qui nous sont données de ces réalités cachées à l'homme sont d'une banalité affligeante. Et deuxièmement, parce que j'ai du mal à comprendre que si Paul n'avait pas eu l'autorisation de Dieu de dire ce qu'il avait vu là-haut, pourquoi ceux qui aujourd'hui vont dans ces lieux-là auraient-ils le droit qui a été refusé à Paul, qui en savait certainement bien plus que nous sur ces choses. Bon, je ferme la parenthèse, simplement. Et c'est pourquoi, justement, de ces mystères du royaume de Dieu, c'est le mot que Jésus emploie, on ne peut qu'en parler approximativement, on ne peut qu'en parler par parabole. Et le but de la parabole, c'est de mettre en évidence les mystères du royaume de Dieu. Le mot mystère est un mot aussi très intéressant en hébreu. L'hébreu, c'est le mot sod. Et il appartient à une des quatre lectures possibles de l'Écriture. Nous avons vu ce matin que chaque verset de l'Écriture a 70 facettes. Mais il y a aussi quatre lectures possibles, quatre approches possibles d'un même verset de l'Écriture. Je les évoque très rapidement. La première approche, c'est ce qu'on appelle en hébreu pshat. Ça veut dire le sens simple. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, tout le monde comprend. Pas besoin il n'y a pas besoin de grandes démonstrations. Jésus, on l'a vu tout à l'heure, se leva pour enseigner la foule qui était là au bord du lac. Bon, c'est clair. Tout le monde peut comprendre ça. Mais si chaque verset de l'Écriture doit d'abord être lu dans son contexte, dans son sens premier, dans son sens obvi, et ça il ne faut jamais l'oublier, ça les chrétiens l'ont souvent oublié quand ils ont fait la lecture de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il se prête aussi à une lecture allégorique. Il y a une lecture allégorique possible de chaque texte de l'Écriture. Mais contrairement à ce qui se passe chez les chrétiens, où on considère que l'allégorie annule le sens simple, pour le judaïsme, le sens simple et le sens allégorique sont complémentaires. Et c'est ainsi, par exemple, que dans le christianisme, on a fait cette lecture, on en parle tout à l'heure avec quelques-uns, qu'on appelait la théologie de la substitution. Là où on lisait dans l'Ancien Testament Jérusalem, on comprenait l'Église. On considérait que Jérusalem était une allégorie de l'Église et que par conséquent, c'était ce sens-là qu'il fallait prendre quand on lisait les prophéties bibliques et que par conséquent, le sens premier, le sens simple, était annulé. Les Juifs ne reviendraient jamais dans leur pays. C'était ce qu'on appelle la théologie de la substitution qui est basée sur cette lecture allégorique de l'Écriture qui annule le sens premier. Vous avez peut-être entendu des mouvantes très prédications sur la prophétie d'Ézéchiel 37 des ossements desséchés, où les ossements se rapprochent, c'est le réveil de l'Église, etc. Cette prédication, cette lecture de ce texte ne me gêne pas. Elle est parfaitement légitime. Mais à condition d'avoir dit d'abord que dans son sens premier, ça concerne la résurrection d'Israël. Voyez-vous, l'allégorie n'annule jamais le sens premier. Il le complète. Bon. Vous avez un troisième sens, alors c'est déjà beaucoup plus subtil. Là, il faut lire le texte dans l'hébreu. C'est ce qu'on appelle le remez. Remez, c'est prendre en compte des incongruités du texte biblique. Par exemple, dans le récit de la Genèse, quand le Seigneur maudit le serpent après la chute, il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Alors si vous prenez pratiquement toutes vos versions, aucune version qui est la traduction exacte, toutes vos versions traduisent de la même manière, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête, cette postérité, et tu lui blesseras le talon. » Il y a un seul problème, c'est qu'en hébreu, c'est « il t'écrasera la tête ». Nous avons un pronom masculin et non pas féminin, alors que, en hébreu comme en français, postérité est féminin. Donc, si vous voulez, pour respecter vraiment la syntaxe hébraïque, il aurait fallu que l'auteur biblique même mette « cette postérité, elle t'écrasera la tête ». Et en mettant « il t'écrasera la tête », c'est une faute d'orthographe, une faute de grammaire. Alors, tous les traducteurs ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. Tous. Et les Juifs ont dit « il n'y a pas de faute de grammaire ici ». Le Saint-Esprit ne s'est pas trompé, parce que justement ce « il » dont il est question concerne le Messie. La postérité de la femme, c'est le Messie. Et ici, nous avons affaire, en fait, à la première prophétie messianique. Voyez-vous ? C'est ce qu'on appelle le Rémez. Et puis enfin, nous avons la quatrième méthode de lecture, qui est justement le Sod, le mystère, la parabole. Et c'est quoi le mystère ? Paul en parle. Il fait souvent allusion au mystère. Et dans les épîtres de Paul, il y a allusion à quatre mystères. Le premier, c'est le mystère d'Israël. Paul dira, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, ça, Romains 11, pour que vous ne vous considériez pas comme sages à vos propres yeux. Il nous parle aussi, dans l'épître aux Éphésiens, du mystère de l'Église, en relation avec un troisième mystère qui est le mystère du mariage. C'est aussi un mystère, nous dit l'apôtre Paul. Et dans la deuxième aux Thessaloniciens, il nous parle du mystère de l'iniquité en relation avec l'apparition de l'Antichrist. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère ? Un mystère, c'est une vérité qui est cachée dans l'Écriture et que l'homme, par son intelligence, ne peut pas comprendre. Combien même serait-il l'homme le plus intelligent du monde ? Combien même serait-il le plus instruit du monde, le plus grand théologien ? Il passera à côté d'un mystère parce que c'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas sonder, ne peut pas appréhender. Et un mystère ne peut être compris que par une révélation de Dieu. Quand il nous parle du mystère de l'Église, Paul nous dit une chose intéressante, Éphésiens 2, il nous dit « En lisant ces quelques mots que je viens de vous écrire, vous pouvez comprendre, vous pouvez appréhender quelque chose de la compréhension qui m'a été donnée du mystère caché en tout temps dans l'Écriture. Et ce mystère n'a été révélé que maintenant, dans ce temps qui est le dernier, aux saints apôtres et prophètes du Messie. Jusqu'alors, ce mystère, Dieu l'avait gardé caché de telle sorte que même les anges désiraient plonger leur regard dans ce mystère et ils ne le comprenaient pas. Même les anges, vous rendez compte ? Mais, dira l'apôtre Paul, ça cette fois-ci je passe à un autre texte dans Corinthiens, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que son œil n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et vous avez la même pensée ici dans ce texte. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et à eux cela ne leur a pas été donné. Aussi heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent, car beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ces choses, elles ont paru, les entendre et ne les ont pas entendues. Vous avez remarqué que très souvent, quand Jésus termine son enseignement par les paraboles, il dit « que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ». Ça veut dire « que celui qui peut comprendre, comprenne ». Et comment peut-on comprendre ? C'est un don de Dieu, c'est un don de son esprit. Et il y a des temps pour la révélation des mystères de Dieu. Les éléments se déchaînent. Donc, il y a des temps pour la révélation des mystères de Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure que le mystère de l'Église, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le mystère de l'Église ? C'est le rassemblement dans un seul corps du reste d'Israël qui a cru et du reste des nations qui a cru. Voyez-vous, on a souvent une vision de l'Église très inexacte. Et souvent, on me demande de parler sur ce thème, l'Église et Israël. Et je dis, je commence toujours ma conférence dans ces cas-là, le problème est mal posé. Parce que dire l'Église et Israël, c'est dire il y a Israël d'un côté et il y a l'Église de l'autre. Ça veut dire Israël c'est les Juifs, l'Église c'est les non-Juifs. Or, justement, dans cette révélation du mystère de l'Église que Paul nous donne dans l'Épître aux Éphésiens, qu'est-ce que c'est l'Église pour lui ? Le noyau de l'Église, c'est le reste d'Israël qui a cru en Jésus. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église une minorité du peuple juif qui a cru. C'est tout le propos de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitres 9, 10 et 11. Et il y a eu parmi les nations une minorité des nations qui a cru. Car le reste des nations est une minorité parmi les nations. Et Dieu rassemble les uns et les autres dans un seul corps. Si à un moment de son histoire il n'y avait plus eu de juifs dans l'Église, l'Église n'aurait plus été l'Église. Et c'est ce mystère justement de la réunion dans un seul corps qui a été révélé à l'apôtre Paul en particulier, mais aussi aux autres apôtres. Ça veut dire que quand vous lisez les prophéties, nulle part vous ne trouverez de référence à l'Église en tant que telle. En clair, en tout cas. Et pourtant, nous dit l'apôtre Paul, et c'est justement ça qui fait le sens même du mystère et donc de la parabole, le mystère, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est cohérent avec l'Écriture. Quand vous avez eu révélation de ce mystère, vous pouvez dire, ah, mais bien sûr, c'est ce qui est écrit dans tel passage. Vous, soudain, si vous voulez, cette révélation du mystère qui vient de vous être communiquée par le Saint-Esprit éclaire un passage de l'Écriture, ou plusieurs passages de l'Écriture. Et vous retrouvez ça dans notre texte. C'est ce qu'a dit Ésaïe, par exemple, ici, quand il a parlé que le Seigneur allait endurcir le cœur, etc. Alors, la parabole appartient à ce genre. Elle touche aux choses des lumières. Elle touche à l'apparition du royaume de Dieu. La parabole est en relation avec le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi on appelle les paraboles de Jésus les paraboles du royaume. Et l'évangile est résumé au début des synoptiques au travers d'une part de la prédication de Jean-Baptiste et d'autre part de la prédication de Jésus. Jean-Baptiste paraît donc rempli du Saint-Esprit. C'est la première voix prophétique qui se fait entendre en Israël depuis 400 ans, ça veut dire depuis le dernier des prophètes d'Israël, du premier temple, c'est-à-dire Malachi. Et la prédication de Jean-Baptiste est résumée en ces termes. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et quand Jean cesse sa prédication, que Jésus prend la suite, Jésus reprend le même thème. Jésus allait de lieu en lieu, nous est-il dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume et disant « Repentez-vous, le temps est approché, croyez en la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. Et cette expression, le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu, on peut traduire des deux manières, basileia douté ou en grec, vient d'un texte d'Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonne nouvelle, qui publie la paix, du messager de bonne nouvelle, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Le messager de la bonne nouvelle, c'est le Messie, c'est Jésus. Et cette bonne nouvelle, vous savez, c'est ce qui donne en grec évangélion, l'évangile. L'évangile, quand nous disons nous prêchons l'évangile, disons nous prêchons la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, remarquons ici dans ce texte, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée à Sion, donc qui est annoncée au peuple d'Israël. C'est pourquoi Paul avait pour priorité d'évangéliser les Juifs. Quand il allait n'importe où, son premier devoir, c'était de se rendre à la synagogue, parce que, dira-t-il, l'évangile est d'abord pour le Juif, et ensuite pour le Grec, pour le non-Juif. Par conséquent, ici, qui dit à Sion, ton Dieu règne, le règne de Dieu. Et cette venue du règne de Dieu, ou du royaume de Dieu, si vous voulez, c'est la même chose, eh bien, apporte au peuple d'Israël deux choses, la paix et le salut. Et ce sont les deux thèmes de l'évangile que nous prêchons tous, n'est-ce pas ? La paix et le salut. Et bien entendu, ici, c'est pas simplement, comment dirais-je, un petit salut au rabais, c'est le salut eschatologique, le salut au dernier jour, ce dont nous avons évoqué ce matin la venue au travers de cette fête de Tou Bichvat. Et par conséquent ici, lorsqu'il est question de cette bonne nouvelle, Jésus prêchait la bonne nouvelle, ça veut dire le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ça veut dire la même chose, est imminent. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu sur le plan concret, sur le plan pratique? Alors il nous faut reprendre ici la prière du Notre Père. La prière de Notre Père, vous savez, c'est une prière qui est un poème, un peu comme les psaumes ou les proverbes, justement. Et le propre de la poésie hébraïque, c'est qu'on répète deux fois la même pensée de deux manières différentes. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Vous dites de deux manières la même chose, de deux manières opposées, mais c'est finalement le résultat est le même. Entre parenthèses, quand vous avez un texte dans la poésie biblique, les psaumes ou les proverbes ou Job que vous ne comprenez pas, eh bien, si vous ne comprenez pas le premier terme, le deuxième terme peut vous éclairer. Ça, c'est une petite astuce aussi pour comprendre l'écriture. Et dans le Notre Père, les demandes aussi vont par deux, de la même manière. Que ton règne vienne, ou bien que ton royaume vienne, on peut traduire des deux manières, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors quand nous posons la question, qu'est-ce que ce règne, qu'est-ce que ce royaume, qui était le thème essentiel du message de Jésus, et donc le thème essentiel des paraboles, alors le deuxième terme de Notre Père nous permet de comprendre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est un endroit où la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Il dit et la chose existe. Il dit qu'il y ait de la lumière et à l'instant même il y a de la lumière. Il dit à un ange, fais ceci et immédiatement il le fait. Le ciel est un endroit où il n'y a aucune opposition à la volonté de Dieu, aucune révolte, aucune contestation par rapport à la volonté de Dieu, car tous les êtres célestes savent et ont expérimenté que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et par conséquent, ils aiment cette volonté de Dieu. le royaume, plutôt le ciel est l'endroit où ce règne de Dieu, ce royaume de Dieu, s'établit de manière parfaite. Malheureusement, il n'en est pas ainsi de la terre pour le moment. Ça ne veut pas dire que Dieu ne règne pas sur la terre. Dieu règne, et de nombreux psaumes nous le rappellent. Mais ce règne, pourrait-on dire, si on employait un langage diplomatique, c'est un règne de juré et non pas de facto. Ça veut dire que c'est un règne de droit, mais dans les faits, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement sur la terre. Parce que contrairement à ce qui se passe dans le ciel, il y a opposition sur la terre à la volonté de Dieu. Il y a d'abord l'opposition de Satan et de ses anges, des démons, parce que Satan pourra dire à Jésus, ces royaumes, ils m'ont été donnés. Et Jésus ne dit pas qu'ils ne lui ont pas été donnés. Jésus confirme qu'effectivement, Satan est le prince de ce monde. Et à plusieurs reprises, cette affirmation revient dans l'Écriture. Bien sûr, Satan ne fait pas n'importe quoi. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. En dernier ressort, c'est Dieu qui est roi. Mais Satan agit d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a deux règnes qui s'opposent. Et puis malheureusement, il y a aussi une autre source d'opposition au règne de Dieu sur cette terre, c'est l'homme, l'homme déchu, l'homme pécheur. L'homme qui a fait un pacte avec Satan et qui, par sa nature pécheresse et corrompue, eh bien, prend souvent le parti de Satan contre Dieu. De telle manière que nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme au ciel. Chaque fois qu'il y a de la souffrance, chaque fois qu'il y a péché, chaque fois qu'il y a maladie, chaque fois qu'il y a mort, chaque fois qu'il y a guerre, chaque fois qu'il y a trouble de quelque sorte que ce soit, ça n'est pas la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est encore une fois bonne, agréable et parfaite. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à prier « Que ta volonté soit faite » sur la terre comme au ciel. Car, et c'est justement le thème, nous revenons ici au thème de nos paraboles, un jour viendra où la volonté de Dieu s'accomplira sur la terre aussi parfaitement qu'elle s'accomplit au ciel. Et quand il en sera ainsi, le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Et c'est cette bonne nouvelle que Jésus annonce. Le temps vient où le prince de ce monde est jeté dehors. Le temps vient où par conséquent il est réduit à l'impuissance. Et le temps vient où la volonté de Dieu va s'accomplir sur la terre aussi parfaitement qu'elle s'accomplit dans le ciel. Voilà la bonne nouvelle du royaume, voilà la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer. Et toutes les paraboles tournent autour de ce thème. Et ce thème, il est développé de différentes manières. Deux questions essentielles dans les paraboles. Comment ce royaume va-t-il s'instaurer? Comment, comme le dira le livre de l'Apocalypse, vous savez, vous avez un texte magnifique qui est chanté par les élus à la fin du livre de l'Apocalypse, les royaumes de ce monde sont en train de devenir le royaume de Dieu et de son Messie. Alors la question que posent les paraboles est celle-ci. Comment passe-t-on des royaumes de ce monde au royaume de Dieu? Par quel processus, par quelles évolutions le monde va-t-il passer pour devenir le royaume de Dieu et de son Messie? Et la deuxième question qui est posée dans les paraboles, c'est quand aura lieu la venue du royaume? Finalement, deux questions qui sont essentielles, évidemment, pour tout enfant de Dieu, et qui sont justement le thème essentiel de cette bonne nouvelle que le Messie a annoncé, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 52, verset 7, que nous avons lu tout à l'heure. Il annonce la paix, il annonce le salut. Et Jésus est celui qui annonce comment ce royaume de Dieu va venir, et quand ce royaume de Dieu va venir. Je voudrais prendre quelques-unes des réponses à ces questions. Premièrement, comment le royaume de Dieu va-t-il venir ? La première série de paraboles, une première série de paraboles répond à cette question et nous dit ceci, par un grand tri. Et ça commence déjà avec la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui, nous l'avons vu, aussi annonce le royaume, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jean nous dit ceci, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, qui en trouve les arbres encore. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi je vous baptise dans l'eau, il vous baptisera dans le feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il engrangera le blé dans les greniers et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Deux paraboles, deux courtes paraboles nous sont données par Jean dans ces propos. Le royaume des cieux est comparé à un tri entre des arbres. Le Messie, nous verrons tout à l'heure l'importance du Messie dans cette venue du royaume. Le Messie est celui qui est semblable à quelqu'un qui a une hache, qui va couper et brûler tous les arbres qui ne portent pas de bons fruits. Qui ne portent pas de bons fruits, oui, je dis bien. Deuxième parabole, il a son van à la main, il nettoiera son air. Ceux qui sont semblables à la paille, ça veut dire qu'ils ne portent pas de bons fruits, autrement dit, les méchants, ce que le livre de la sagesse appelle les méchants, seront brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas, et les justes seront engrangés dans les greniers. Là, nous retrouvons un thème essentiel des livres de la sagesse, du livre des Proverbes en particulier, mais aussi des Psaumes. La différence entre les justes et les méchants. Et les livres de la sagesse aussi entre ces deux pôles. Le livre des Psaumes commence par cette parole, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Le thème des deux voies. Car le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition, la voie des méchants. Et ces deux livres tournent autour de cette opposition, de cette guerre eschatologique entre les justes et les méchants. Et vous retrouvez ce thème dans les paraboles. Le royaume des cieux, c'est un temps où le Seigneur, après avoir longtemps patienté et avoir laissé les méchants prospérer, scandale pour le psalmiste, qui souvent s'insurge, face à cette patience inexplicable de Dieu vis-à-vis du méchant. Mais le royaume de Dieu, comment viendra le royaume de Dieu ? Quand Dieu sortira de ce long temps de patience et va faire un grand tri entre les justes et les méchants. C'est aussi le thème du dernier des prophètes, Malachie. Alors, on verra la différence quand se lèvera le soleil de justice, on verra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et ce jugement, nous l'avons vu ce matin, sera précédé par l'effusion du Saint-Esprit, le retour du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui s'en est étalé avec le dernier des prophètes et qui reparaîtra au dernier jour. Et l'on saura que nous sommes dans le temps du royaume quand l'Esprit sera à nouveau manifesté. Et quand Jésus est baptisé au Jourdain, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Ça veut dire nous entrons dans les derniers temps. Et ce jugement, non seulement l'avons vu ce matin, le Saint-Esprit sera une bénédiction pour les justes, mais sera une malédiction pour les méchants. Et ce jugement, ce grand tri final, prendra la forme d'un fleuve de feu qui éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Les justes seront épurés et blanchis, comme c'est écrit dans le livre de Daniel. Et le dernier chapitre du livre de Daniel est très intéressant à ce sujet, car il nous révèle aussi un mystère. Et Daniel dit ceci, « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis à l'ange qui parle avec moi, « Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses ?» Et l'ange lui dit, « Va Daniel, scelle cette prophétie, car elle s'applique à un temps éloigné. Tu n'as pas à comprendre aujourd'hui, tu ne comprendras pas, ce n'est pas pour toi. » Là, il y a un mystère qui est enfermé. Seulement entendre la fin des hommes sages comprendront. Et par conséquent, il est question dans Daniel 7, allez reprendre ce texte si vous le voulez, Daniel 7, verset 10, nous est dit ceci. Donc, verset 9, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme des charbons d'un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et des myriades se tenaient à sa présence. Des juges s'assirent et des livres furent ouverts. Les choses qui ont été scellées, qui ont été cachées, sont ouvertes au dernier jour. Et à la lumière de ces mystères qui sont révélés, chaque homme est jugé. Et il met les uns à sa droite et les autres à sa gauche, comme on le voit aussi dans d'autres paraboles. Autre parabole qui reprend le même thème dans le chapitre 13 de Matthieu, c'est la parabole de la scène. Qu'est-ce que c'est que la scène ? C'est un filet qui pouvait faire entre 150 à 200 mètres de long, et qui était un filet rectangulaire. Il était une extrémité, il y avait des flotteurs de liège, et en bas il y avait des lestes qui aujourd'hui, on utilise encore la scène, sont faits de billes de plomb. À l'époque, on n'utilisait pas de billes de plomb, on utilisait des pierres. Ceux qui sont avec moi en Israël verront ça. C'est très intéressant, on en trouve encore aujourd'hui, qui date de l'époque de Jésus, de ces lestes-là. Et ce filet était manœuvré par deux équipes. Il y avait une équipe qui se tenait sur le rivage, et il y avait une autre équipe qui prenait le filet sur un bateau. Il allait perpendiculairement au rivage, et il déployait le filet donc sur 150 à 200 mètres. Et là, on faisait un 90 degrés. Le bateau rabattait le filet sur le rivage. Ça veut dire que pendant ce trajet du filet et du bateau, eh bien, le filet ramassait tout ce qu'il trouvait. Et alors, on le tirait sur le rivage, et puis là, eh bien, on récupérait ce qui était pris dans le filet. Et vous savez que selon la loi juive, il y a deux types de poissons. Il y a les poissons cachers et les poissons non cachers. Ça veut dire les poissons qui peuvent être consommés par un juif et ceux qui sont considérés comme impurs. Et notamment ceux qui sont considérés comme impurs, ce sont des poissons sans écailles. Pour être cachère, le poisson doit avoir des écailles. Alors, quand les pêcheurs juifs ramenaient le filet, la seine sur le rivage, ils faisaient le tri. Et il y avait un poisson qui est très courant encore aujourd'hui dans le lac de Tibériade, c'est le poisson chat, qui est un poisson sans écailles. Alors, les pêcheurs rejetaient systématiquement à la mer les poissons chats parce qu'ils n'étaient pas cachers. Et Jésus dit au dernier jour, il en sera de même. Le royaume des cieux, ce royaume qu'il prêche avec son évangile, est comme un filet qui est jeté dans la mer et qui ramasse tous les poissons qu'il trouve. Et par conséquent, il ramasse les justes et les méchants. Mais cela durera jusqu'à la fin. Et quand on ramène le filet au rivage, ce sera le dernier jour, les anges feront le tri. Entre les justes, les poissons cachers, et les méchants, les poissons non cachers. Voyez-vous, ce thème du grand tri dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça veut dire deux mystères. Et on retrouve cette idée aussi dans une autre parabole qui est toujours évoquée là, dans le chapitre 13, la parabole du bon grain de l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à de la semence, de la bonne semence qu'un homme a semée dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi est venu et l'a semé l'ivraie. Et quand les deux semences commencent à monter, eh bien ses serviteurs se rendent compte qu'il y a de l'ivraie dans le champ. Ils disent, est-ce que tu veux qu'on aille arracher l'ivraie ? Le maître dit, non, surtout pas. Parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain, parce que pour le moment, on ne peut pas très bien encore voir la différence entre l'un et l'autre. Attendez que les deux mystères aient mûri. Le mystère de l'iniquité et le mystère de l'Église. Et à ce moment-là, au moment de la moisson, on ramassera tout ensemble et on fera tri. Le bon grain dans les greniers, l'ivraie dans un feu qui ne s'éteint pas. Même pensée que dans les paraboles de Jean-Baptiste, nous parlions tout à l'heure. Et en même temps, ici, nous avons une réponse à la deuxième question. Quand viendra le royaume de Dieu après un long temps de Jésus ? Le royaume des cieux, il commence avec la prédication de la parole, donc avec le ministère de Jésus, sa première venue, et il va durer longtemps, un temps où l'époux sera enlevé et où les deux mystères vont grandir ensemble. Et ce n'est qu'au dernier jour, qui sera comme la moisson, que le grand tri sera fait. Et en attendant, il y a ce temps de la patience de Dieu, où les deux mystères grandissent ensemble, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et ce temps est un temps de grâce, où le pécheur a la possibilité de se repentir. Deuxième thème, c'est finalement, ça rejoint celui-là, le thème du jugement dernier. Alors vous trouvez ce thème, notamment dans la fameuse parabole des brebis et des boucs dans Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté. Cette expression « Fils de l'homme » a été mal comprise, fort mal comprise, notamment des pères d'Église. Quand on a élaboré donc toute la christologie à partir du IVe siècle et les siècles suivants, les pères d'Église ont utilisé l'expression « Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme » pour évoquer Jésus dans sa divinité, fils de Dieu, et fils de l'homme dans son humanité. Ils avaient raison, évidemment, d'insister sur ces deux points. Je suis parfaitement trinitaire et parfaitement nicéen dans ce domaine-là, il n'y a aucun problème, mais l'expression « fils de l'homme », ils ne l'ont pas comprise. L'expression « fils de l'homme » ne signifie pas Jésus dans son humanité par opposition à sa divinité. « Fils de l'homme » est une allusion à ce texte de Daniel 7 dont nous avions parlé tout à l'heure, au moment de ce grand jugement final. Quand le juge des derniers jours, Dieu s'assied sur son trône, alors on voit venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence du fils de l'homme. Et le fils de l'homme, dans ce texte et dans la tradition juive qui a suivi jusqu'à nos jours, c'est le juge apocalyptique, le juge des derniers jours. C'est Jésus, le Messie, dans son rôle de juge des derniers jours. Et ce juge des derniers jours, donc il s'assiera sur son trône et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et nous retrouvons le thème du grand tri. Il séparera les uns les autres, il mettra, comme un berger sépare les brebis et les boucs, il mettra les brebis à sa droite et il mettra les boucs à sa gauche. Vous savez, là aussi il y a une petite subtilité, si on ne connaît pas exactement la différence entre brebis et bouc, ou les chèvres, si vous voulez, les caprins. La chèvre, dans le pays d'Israël, est une véritable calamité, jusqu'à aujourd'hui. Et les troupeaux de bergers sont composés, en général, de ces deux éléments, brebis et bouc, et brebis et chèvres, plus exactement. Or, le propre du mouton, de la brebis, c'est qu'elle mange évidemment les plantes, mais on laisse les racines. Ça veut dire la plante pour pousser. La chèvre mange tout, jusqu'aux racines. Et derrière la chèvre, vous avez le désert. Et c'est pourquoi dans des endroits dont l'équilibre écologique était instable, les bergers autrefois mettaient les brebis à part pour les empêcher d'aller brouter dans ces endroits-là. Et Jésus reprend cette coutume disant, c'est ce qui se passe au dernier jour. Le fils de l'homme, qui est aussi le bon berger, mettra à la droite les boucs, et à droite les brebis, et les chèvres à gauche. Et ce fils de l'homme, il est aussi évoqué dans le psaume 110, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire que celui qui va s'asseoir à la droite du trône de Dieu au jugement du dernier jour sera le Messie, disent les sages d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et ce fils de l'homme, qui aura donc ce pouvoir de juger, vous le retrouvez aussi bien sûr dans 1 Corinthiens 15, Paul évoque aussi ce texte. On trouve aussi cette expression dans le psaume 82, Dieu siège au milieu des dieux. Il y a aussi ce texte dans le psaume 2, je t'ai engendré aujourd'hui, l'allusion à la naissance miraculeuse du Messie, on dit aussi les sages. Et la parabole des brebis et des boucs est couplée avec une autre parabole qui est la parabole des dix vierges. Et on comprend parfois assez mal la liaison qu'il y a entre les deux paraboles. En fait, ce sont deux paraboles qui éclaire un thème commun et en même temps qui, sous un éclairage un petit peu différent. Pourquoi y a-t-il 10 vierges ? Là, on retrouvera un autre thème que nous avons abordé ce matin, le thème du mariage, le thème du mariage eschatologique, le thème du festin eschatologique. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est tiré aussi du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, livre de la sagesse, était considéré à l'époque de Jésus comme une parabole entre du mariage final entre Dieu et Israël. Dieu et le Messie notamment, était l'époux du Cantique des Cantiques, le bien-aimé. Et quand on parlait de l'époux dans la tradition d'Israël, on voulait dire le Messie. Jésus a souvent employé cette expression pour parler de lui-même. Il a dit les amis de l'époux peuvent-ils s'attrister pendant que l'époux est avec eux? Vous savez, quand il y a une controverse. Bon, Jésus a souvent parlé de lui-même comme étant l'époux. Tout le monde comprenait. Quand on parlait de l'époux, ça veut dire le Messie. C'est l'époux du Cantique des Cantiques. Et là, nous trouvons dans cette parabole des Vierges cette idée comme l'époux tardé. Autrement, ce thème que nous avons déjà découvert dans les paraboles, le royaume des cieux, bien qu'il soit déjà imminent, en la personne de Jésus, il est déjà là parce que les prémices du royaume sont jetées, la semence du royaume est jetée, mais la fin n'est pas encore pour tout de suite. L'époux va tarder. Alors n'attendez pas une fin rapide. Par contre, on est déjà dans le temps du royaume, même si l'époux tarde. Et cette, donc ici, le royaume des cieux est semblable à ce festin. On trouve aussi cette idée des paraboles ou du grand festin. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui a fait des noces pour son fils. Enfin, il y a de nombreuses paraboles qui reprennent ce thème du mariage. Maintenant, ici, dans la parabole des vierges, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 vierges. En deux groupes, 5 sages et 5 folles. Et là, nous retrouvons aussi un thème très courant dans la littérature de la sagesse. Je parlais tout à l'heure la différence entre les justes et les méchants, les justes et les impies. Maintenant, dans le livre des Proverbes, on retrouve aussi cette différence, mais avec une petite nuance. Les justes sont associés à des sages, et les méchants à des insensés, à des fous. En hébreu, vous avez deux mots, tipshin, pikrin. 5 sont sages, 5 sont folles. Ça veut dire 5 sont justes, 5 sont méchantes. C'est synonyme. Et ces vierges, elles représentent donc ici un groupe collectif. L'assoupissement les atteint toutes, nous l'avons vu, parce qu'elles ont oublié que l'époux ne viendrait qu'après un long temps. Et justement, ici, on pourrait traduire plus exactement les folles par l'expression tipshin, ça se traduit plutôt en hébreu par avisé. Vous avez d'autres paraboles, juste avant les paraboles des vierges folles et des brebis des boucs, où il est question du serviteur prudent et avisé. C'est la même pensée. Ces serviteurs et les vierges sages sont avisés parce qu'elles ont pris au sérieux les avertissements du maître. Et les folles sont automatiquement méchantes. Pourquoi ? Parce qu'il faut être fou pour pécher. Il faut être fou pour être méchant. Les avisées sont sages quant à leur relation avec Dieu. Elles ont une relation normale avec Dieu et avec les hommes, avec leurs frères qui les entourent. Les fous, au contraire, ne savent pas se conduire d'une manière sage et avisée, à l'inverse de ce qui est écrit dans les Proverbes. Le livre des Proverbes nous montre le chemin juste. Quelle est la conduite juste vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes? Et c'est aussi un des thèmes des paraboles. Comment l'homme doit-il se comporter vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses frères pour être déclaré juste par Dieu? Et alors justement, nous avons vu tout à l'heure deux groupes. 5 d'un côté, 5 de l'autre. 10 doigts à notre main, à nos deux mains. 5 à la main droite, 5 à la main gauche. Et quand le Seigneur sépare les brebis et les boucs, il met les brebis à la droite, les 5 vierges sages, et les boucs à la gauche, les cinq vierges folles. Voyez-vous ? Par conséquent, ici, il y a une assimilation entre ceux qui sont dans les deux paraboles. Les vierges sages sont identifiées avec les brebis, les vierges folles sont assimilées avec les boucs. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux groupes de personnes ? Ils sont avisés, ça veut dire qu'ils ont de l'huile pour leur lampe. La Bible ne nous dit pas, Jésus ne nous dit pas exactement ce qu'est l'huile. On a souvent assimilé ça avec le Saint-Esprit, je ne suis pas certain que ce soit l'interprétation juste. C'est la manière juste de vivre l'Évangile. C'est la manière juste de vivre selon la sagesse. Et voyez-vous, les justes sont justes dans leur manière de vivre, dans leur relation avec les autres. Elles sont avisées, et les paraboles s'achèvent toujours par cette parole, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Être avisé, c'est être conscient que parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous devons veiller en tout temps. C'était aussi la recommandation qui était faite aux serviteurs prudents et avisés, qui justement ne s'endort pas, ne se querelle pas avec ses compagnons, ne boit pas, ne mange pas les biens de son maître en disant « mon bête tarde à venir », mais celui que son maître trouvera à l'œuvre quand il sera là. Vous avez aussi cette idée avec la parabole des talents, où vous avez aussi le même groupe, les sages et les fous. Deux des trois serviteurs sont sages et un est fou. Deux sont sages en ce qu'ils vont se mettre à l'œuvre, ils vont faire fructifier les talents de leur maître, et le fou va aller l'enterrer. Et par conséquent, il y a cette séparation aussi quand le maître revient, exactement comme lorsque l'époux arrive. Maintenant, autre réalité, lorsque l'époux arrive, la porte est fermée. Et quand les vierges folles arrivent, elles trouvent la porte fermée. Vous trouvez ce thème déjà aussi dans la littérature de Qumran. Il y a cette idée que le temps actuel est un temps où il est encore possible de mettre sa vie en règle avec Dieu, mais lorsque viendra le temps du jugement, le temps de ce grand tri, alors ce sera trop tard. C'est maintenant justement qu'il faut se décider. Et il y a dans les paraboles de Jésus ce que les théologiens appellent une urgence eschatologique. Ça veut dire qu'il y a une décision à prendre aujourd'hui. On retrouve le thème des deux voies. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisis. Et ce choix, on ne peut pas le remettre à demain. Aujourd'hui, parce que tu ne sais pas le jour et l'heure, tu ne sais pas quand le maître va pouvoir venir, aujourd'hui tu dois choisir. Et voyez-vous, il y a cette imminence du royaume, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va venir. Très rapidement maintenant, parce que je termine maintenant, je voudrais dire deux mots aussi de la fameuse parabole du semeur. Là aussi, nous retrouvons ce tri entre trois terrains qui sont mauvais et puis un seul qui est bon. Un seul qui va porter du fruit. Vous avez remarqué que là, on est encore dans l'écologie, on parle d'arbres, de plantes, etc. On n'y échappe pas, c'est la terre d'Israël à chaque fois. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces terrains ? Eh bien, Jésus nous le dit, un cœur bon. Le quatrième terrain, c'est celui qui est tombé, nous dit-il, dans un cœur qui est bon. Très intéressant qu'il y avait, de noter qu'il y avait à l'époque de Jésus une vieille prière qui existait 168 ans avant Jésus à peu près. En tout cas, c'est la première trace qu'on trouve de cette prière. Cette période-là, peut-être qu'elle existait encore avant, et qui nous dit ceci, « Fais que nous accomplissions ta volonté d'un cœur bon, et pour cela, mets ta Torah dans nos cœurs. » Le fait de serrer la parole de Dieu dans son cœur, comme le dit le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Qu'est-ce que vous avez échappé ? Non, rien. Donc, si vous voulez, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne pécheras pas contre Dieu. Et tu vas avoir un cœur bon. Un cœur mauvais est un cœur d'où sortent des mauvaises pensées, des adultères, des querelles et des choses semblables. un cœur bon est celui qui va porter de bons fruits, comme un bon arbre va porter du bon fruit. Nous avons des paraboles des sages qui nous reprennent un peu ce thème. J'ai parlé de Yohanan ben Zakkai ce matin, qui disait qu'il avait quatre disciples qui ressemblaient aux quatre terrains justement de la parabole du semeur. Et notamment, il avait un disciple qui s'appelait Eliezer ben Hyrcanos, et il disait de lui, Eliezer ben Hyrcanos est comme une citerne qui ne perd pas une seule goutte de ce que l'on met dedans. Et par ce conséquent, il a un cœur bon. Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Eliezer ben Hyrcanos était un disciple tellement consacré à Dieu que tout ce que lui enseignait son maître Yohanan ben Zakkai, il ne perdait pas une seule goutte. À cause de cela, il avait un cœur bon et il portait du fruit. Voyez-vous, vous avez cette idée aussi quand il nous est dit que Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et là, il y a justement cette capacité qui est donnée à l'homme qui est mauvais par nature, mais à partir du moment où la parole de Dieu habite dans son cœur, il va porter du bon fruit. Et par conséquent, il va être scellé pour le royaume. L'huile dont il est question, dans la parabole des Vierges, nous la retrouvons là. La différence, c'est que justement les Vierges folles sont comme les mauvais disciples dont parle le Rabbi Yohanan ben Zakkai, n'est-ce pas ? Il avait quatre disciples. Celui qui écoutait mal, qui écoutait vite et qui perdait vite. Il oubliait tout de suite ce qu'il avait entendu. C'est un méchant, dit le Talmud. Il y avait un autre disciple qui avait du mal à comprendre, mais quand il avait compris, il gardait ce qu'il avait compris. C'était déjà mieux. Il y en avait un troisième qui comprenait vite, mais il oubliait vite aussi ce qu'il avait compris. C'était un méchant aussi. Et puis il y avait le quatrième, Hyrcanos, qui ne perdait pas une goutte. Il comprenait vite et il gardait tout ce qu'il avait. Il n'oubliait jamais ce qu'on lui avait enseigné. C'était injuste. Et ce juste-là, justement, parce qu'il avait ce cœur bon, était scellé pour le royaume de Dieu. Et voyez-vous, dernier point, il y a un autre type de parabole qui est tout à fait intéressant. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. Où finalement, les ouvriers de la 11e heure reçoivent la même récompense que les ouvriers de la première. Et là, nous retrouvons un autre thème de l'enseignement de Jésus qui est spécifique à Jésus. Jésus abolit toute dignité des justes. Le juste, finalement, il n'est pas supérieur au méchant, il reçoit la même récompense à condition que le méchant se soit repenti. Et nous retrouvons cette idée dans le serment sur la montagne. Dieu est un Dieu bon. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu ne fait pas de différence entre les uns et les autres parce qu'il est bon. Et ça, justement, c'est une des spécificités de l'enseignement de Jésus. Parce que tu es l'objet de la bonté d'un Père qui est infiniment bon, tu dois aussi être bon vis-à-vis de ton frère, même du méchant. Puisque Dieu est bon vis-à-vis du méchant, toi aussi, tu dois te montrer bon vis-à-vis du méchant. Et ça, c'est la justice qui est la justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, et sans laquelle tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et ce thème-là, nous le retrouvons justement uniquement chez Jésus, vous ne le trouvez pas du tout chez les sages. Et alors ici, nous retrouvons ces deux questions. Comment le royaume de Dieu vient-il ? Par la croissance de cette semence que Jésus est venu apporter et qui est offerte à tous les hommes. Mais tous les hommes doivent se déterminer en face de cette offre qui leur est faite. Le plus tôt possible sera le mieux. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu dois te déterminer. Tu dois choisir un de ces deux chemins. Le chemin où tu sers la parole de Dieu dans ton cœur et ton cœur va devenir un cœur bon, tu vas avoir de l'huile dans ta lampe et tu es scellé pour le dernier jour. ou bien tu vas être un de ces auditeurs oublieux dont parle Jacques, tu vas être un insensé, tu vas être quelqu'un qui n'est pas avisé, et que tu vas être semblable au bouc, à l'ivraie, à la paille qui va être brûlée au dernier jour. Devant cette imminence du royaume de Dieu, chacun doit se déterminer, parce que le temps viendra soudainement où le Seigneur avec ses anges fera le grand tri. Et chacun devra rendre compte dans la manière dont il a reçu cette parabole du royaume, cette parole du royaume. Chacun sera jugé par la manière dont il aura reçu cette parole. Et qui ceux qui sont capables de recevoir cette parole, ceux qui servent cette parole, qui aiment cette parole, alors leur est donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu, tandis que les autres ne comprennent pas les mystères du royaume de Dieu. On enlève à celui qui croit avoir même ce qu'il a, parce que justement il n'a pas fait fructifier ce qu'il avait. Tu as une petite compréhension de la parole de Dieu, serre ça dans ton cœur, le Seigneur va t'en donner davantage. Ça c'est aussi un des thèmes des paraboles. Et Jésus nous montre que ce royaume viendra par un grand tri, par un grand jugement, il viendra soudainement, et que le sort des uns et des autres sera évident. Ceux qui seront un obstacle à l'établissement du royaume de Dieu seront éliminés sans pitié. Et c'est pourquoi justement c'est un temps solennel dans lequel nous vivons. Jésus ici remet en question tout ce qui est la vision traditionnelle qu'on avait de la rétribution en Israël, et c'est conforme justement à la vision des apocalypses, parce que finalement la sagesse est une apocalypse, et l'apocalypse est une sagesse. Il faut comprendre les mystères du royaume des cieux à la lumière justement de ce que Jésus est venu apporter, cet éclairage nouveau qu'il apporte sur l'écriture et qui nous permet de comprendre les choses cachées. Jésus pose la question à ses disciples, avez-vous compris ces choses? Oui, leur dirent-ils. Jésus répondit, vous êtes heureux à condition que vous les pratiquiez. Heureux vos yeux s'ils voient, heureux vos oreilles s'ils entendent, dit Jésus, à condition que vous les pratiquiez. Et on retrouve cette idée dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Nous sommes dans ce temps où les mystères du royaume des cieux sont cachés à beaucoup, à savoir justement que le temps est proche, et que précisément c'est le temps d'une décision. Une décision qui a affaire avec la parole, la manière dont nous écoutons la parole, dont nous la gardons et dont nous la mettons en pratique. C'est l'huile, ce sont toutes ces choses. Chacun justement doit faire le bilan pour lui-même. Il peut encore acheter de l'huile avant qu'il ne soit trop tard, mais un jour viendra où la porte sera fermée, et cette fois-ci, ce sera trop tard. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Je terminerai simplement par cette parole, parce que c'est la parole de Jésus lui-même. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles ce qui était le centre de ta prédication, cette imminence de ta venue de ton royaume, cette nécessité de se déterminer par rapport à cette bonne nouvelle que tu as adressé à Sion et que tu adresses au-delà de Sion à toutes les nations, comme tu as dit, de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel, dont Dieu règne pour toujours. Tu annonces la paix, tu annonces le salut. Et en même temps, Seigneur, cette venue du règne, où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel, il n'y aura plus ni mal, ni souffrance, ni mort, ni péché, et il n'y aura plus non plus de méchants. Alors Seigneur, nous ne voulons pas être du nombre des méchants. Tu nous montres, Seigneur, que tu élimineras de ton royaume tous ceux qui commettent les scandales. Alors Seigneur, donne-nous ce cœur bon. Nous voulons faire notre cette prière, Seigneur, qui était celle de ton peuple quand tu étais sur la terre. Mets en nous un cœur bon pour que nous fassions ta volonté d'un cœur pur. Et donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donne-nous, Seigneur, d'être ceux qui gardent, qui méditent cette parole jour et nuit pour être semblables à ces arbres plantés près d'un courant d'eau qui donnent leur fruit en leur saison. Donne-nous d'être assez avisés, assez sages pour réaliser que la voie des pécheurs mène à la perdition, Donne-nous d'être assez sage pour que nous comprenions combien il est fou, il est insensé, il est stupide de pécher. Mais qu'il est sage, Seigneur, de vivre selon ce que tu as prescrit dans ta parole, parce que tu nous as montré le chemin de la vie, le chemin de ce bonheur éternel. Et dans ces temps, Seigneur, qui sont les temps des derniers, mais qui sont les temps de la fin, Seigneur, nous voulons être de ceux qui comprennent, qui entendent, qui gardent et qui mettent en pratique. Seigneur, ceux auxquels tu révèles tes secrets, tu as dit que le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Alors donne-nous, Seigneur, de comprendre ces choses pour pouvoir être trouvés prêts quand tu viendras. Et ainsi, Seigneur, aller dans la gloire céleste, au nom de Jésus.